Nous lirons deux textes ce matin, un dans le Nouveau Testament, un dans l'Ancien Testament. Nous commencerons par le texte du Nouveau Testament qui est très très connu. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, les versets 9 à 13, au chapitre 6 de l'Évangile de Matthieu, nous sommes donc dans ce grand discours que Jésus prononce sur la montagne, celui qui commence par les béatitudes. Et voici donc ce que Jésus dit à ce moment-là. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Et puis, dans le livre du prophète Jérémie, quelques versets qui donc font partie d'un ensemble, au premier chapitre du livre du prophète Jérémie, où Jérémie annonce un malheur qui vient sur Jérusalem. Il s'agit donc de la menace de l'empire babylonien qui, à l'époque du prophète Jérémie, au début de son ministère, renverse, écrase, remplace l'empire assyrien, qui repousse l'empire égyptien et qui, de ce fait, prend la domination à la fois sur le royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem, et puis aussi sur les royaumes environnants ou ce qu'il en reste. Dans ce chapitre 5, même si le livre du prophète Jérémie, dont la composition est très complexe, n'est pas du tout, ne relate pas un ordre chronologique, eh bien, il semble que l'on soit quand même avant la destruction de Jérusalem. Et voici ce que le prophète Jérémie dit. Au chapitre 5, les versets 20 à 31. Annoncez ceci à la maison de Jacob. Faites-le entendre en Juda. Écoute, je te prie, peuple stupide, déraisonnable. Ils ont des yeux et ne voient pas. Ils ont des oreilles et n'entendent pas. Ne me craindrez-vous pas, déclaration du Seigneur. Ne tremblerez-vous pas devant moi qui ai donné à la mer le sable pour frontière, comme une limite permanente qu'elle ne passera pas. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils grondent, mais ils ne passent pas. Mais ce peuple a le cœur indocile et rebelle. Ils se retirent et s'en vont. Ils ne se disent pas, craignons le Seigneur notre Dieu qui donne la pluie en son temps, la pluie d'automne, la pluie de printemps, et qui nous garde les semaines fixées pour la moisson. Ce sont vos fautes qui ont tout perturbé. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car il se trouve des méchants dans mon peuple. Ils épient comme celui qui pose des pièges. Ils tendent un filet et prennent des hommes. Comme une cage remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de tromperies. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils sont devenus gras, resplendissants. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne rendent pas la justice. Ils ne rendent pas justice à l'orphelin et ils prospèrent. Ils ne respectent pas le droit des pauvres. À de tels gens ne ferais-je pas rendre des comptes ? Déclaration du Seigneur. Ne me vengerais-je pas d'une pareille nation ? Ce qui se passe dans le pays est atterrant, terrible. Les prophètes parlent mensongèrement. Les prêtres exercent leur pouvoir à leur guise, et mon peuple aime qu'il en soit ainsi. Mais que ferez-vous pour l'avenir du peuple ? Il est assez étonnant d'entendre, dans un texte vieux de 2500 ans, au moins, à peu près, l'évocation de perturbations climatiques dues à l'activité humaine. Ce sont vos crimes, maison de Jacob, peuple du royaume de Juda, qui perturbent cet ordre. La frontière de sable, le rivage que la mer ne dépasse pas. Ce sont vos fautes, habitants de Jérusalem, à qui s'adresse le prophète, qui perturbent ses bienfaits, c'est-à-dire la pluie d'automne qui tombe en son temps, la pluie de printemps qui tombe en son temps, c'est-à-dire le cycle des saisons et la possibilité des récoltes. Car enfin, au VIe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque du prophète Jérémie, nulle pollution chimique à déplorer, aucun effet de serre à redouter, et la notion de réchauffement climatique n'a aucune réalité. Cependant, ne faisons pas de Jérémie un écologiste avant l'heure. Sa représentation de Dieu et celle du monde ne sont plus les nôtres. Par exemple, nous ne croyons pas que les malheurs qui surviennent sont des châtiments de Dieu. Cependant, nous pouvons entendre dans ces quelques paroles quelque chose pour aujourd'hui, en ces temps de crise écologique, et aussi à quelques jours du synode régional de l'Église protestante unie en région parisienne, dont le thème est cette année « Écologie, quelle conversion ?» singulier ou pluriel, point d'interrogation. Donc, dès le début de son ministère, Jérémie avertit. D'une part, une menace vient. En l'occurrence, elle vient du nord, de l'Empire de Babylone. Et d'autre part, ce qui se passe à Jérusalem, parmi le peuple, est déjà la cause d'un très grand malheur. Vous savez, le rôle d'un prophète, ce n'est pas de prédire l'avenir. Le rôle d'un prophète, c'est de dire ce qu'il voit, ce que signifie ce qu'il voit et les conséquences de ce qu'il voit. Et ce qui permet d'interpréter ce qui se passe, ce qui est à voir, il faut déjà bien voir, eh bien c'est l'inspiration par l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur. Le Dieu créateur, dit Jérémie, a donné à la mer le sable pour frontière comme une limite permanente qu'elle ne passera pas. Il fait tomber la pluie en ses saisons, ce qui assure les récoltes. Alors certes, ces paroles sonnent étrangement aux oreilles des hommes et des femmes du XXIe siècle, comme les paroles des autres textes bibliques où la création est affirmée, confessée, chantée, de la Genèse au psaume, du livre de Job au prophète, à ce passage du livre de Jérémie en particulier, mais bien d'autres encore. C'est que le langage mythologique n'est plus tellement familier aux oreilles modernes. Ce que la création représente, ce n'est pas un fer, un acte de fabrication de la terre et de ce qu'elle porte, minéraux, végétaux, animaux et humains. La création, ce n'est pas non plus la nature, celle que nous pouvons admirer ou redouter, c'est-à-dire la nature, ce qui est là et dont nous faisons partie, nous qui sommes humains vivant sur terre. La nature toute seule, elle est en fait assez terrible. Ce n'est pas seulement la beauté d'un coucher de soleil ou d'un paysage de montagne. La nature, c'est aussi la puissance de destruction d'un cyclone, les ravages d'un tremblement de terre, les virus, les venimeux. La nature, c'est la loi du plus fort dans les relations entre vivants. Les uns mangent les autres et il n'y a pas de répit. La nature n'est ni une mère, ni le paradis. Elle n'est ni à vénérer, ni à détester. Elle est ce dont nous faisons partie, humains que nous sommes. Elle est ce sur quoi les humains agissent, par la culture, agriculture, mais aussi par leur culture, pour le meilleur et pour le pire. Mais la nature ne dit pas à l'humain ce que signifie qu'être humain, parce que être humain, c'est bien plus que le fait d'être en vie. Mais sur cette nature qui est là, sur cet humain qui est là, la création pose une interprétation. Elle donne une représentation du monde qui est autre chose que le réel et les faits. Elle vient donner un sens. C'est ce que chante le célèbre premier chapitre de la Genèse avec ce Dieu qui parle et dont la parole opère des distinctions, des séparations dans la confusion de ce qui est appelé dans la Genèse le tohu-bohu. La Genèse parle de ce Dieu dont la parole bénit la diversité des espèces et la présence des humains. Cela est bon. Cela est très bon. La parole de la création crée ainsi le sens pour l'humain. Elle lui dit qui il est dans l'ensemble de tout ce qui est sur terre. Elle lui dit qui il est en tant qu'humain sur terre, appelé à prendre soin de la création dans une domination, le mot y est bien, mais une domination éclairée, éclairée par le bon, la bénédiction prononcée sur les éléments et leur diversité. La parole de la création appelle à un devenir, car être humain, ce n'est pas donné en naissant. C'est le devenir auquel nous sommes appelés, c'est notre vocation. Autant dire alors que la création n'est pas derrière nous dans un temps reculé, mais qu'elle est un événement. L'événement dans lequel celui qui entend cette parole qui donne sens, y répond et s'engage dans une démarche personnelle qui le conduit à regarder le monde et lui-même selon l'orientation donnée par la bénédiction. Alors oui, ah oui, que ton nom soit sanctifié, avec toute la gratitude de ceux qui n'ont plus à errer sans savoir où aller, sans savoir comment vivre. La gratitude de tous ceux qui n'ont plus à mériter un acquiescement sur leur vie, sur leur être, ni mériter un horizon à leur existence. Que ton nom soit reconnu pour le nom qui ouvre un chemin à la vie des vivants. En Israël, à l'époque de Jérémie, la culture est une culture agricole, pour laquelle les pluies sont essentielles pour assurer la nourriture. C'est aussi une culture pour laquelle la mer est l'espace dangereux. Elle s'agite, elle gronde. Dieu lui a fixé une limite, rappelle Jérémie. Mais avec ce langage mythologique, il ne s'agit pas de croire que Dieu s'occupe du tracé des côtes. Il s'agit de comprendre que la notion de limite qui sépare est fondamentale dans le processus de création. Une limite implique à la fois la distinction et la reconnaissance, l'altérité et la relation. Avec la limite est instauré un ordre, un sens de relation. Elle indique d'une part qu'il y a une place pour chacun de ceux qui sont là et que personne ne peut prendre toute la place ou empêcher certains d'avoir une place. Et d'autre part, la limite permet de reconnaître les autres et d'entrer en relation avec eux selon la perspective orientée par la bénédiction pour conduire à un devenir d'harmonie dans la création. Or, c'est ce devenir d'harmonie et ce qui existe déjà d'harmonie qui est mis en péril. Et Jérémie le dit avec l'image des pluies d'automne et de printemps et du cycle des saisons. Non que Dieu s'occupe de faire tourner le vent et les nuages et d'ouvrir les vannes au bon moment, mais les pluies assurent les récoltes et les récoltes assurent la nourriture des humains. Et il s'agit là d'une manière de parler de cette harmonie dans laquelle la vie des vivants est préservée et dans laquelle l'humanité de l'humain peut s'épanouir. Alors oui, oui, que ton règne vienne, ce règne de plénitude et d'harmonie, ce règne dans lequel personne ne porte de couronne, ni ne peut réclamer de privilège, ce règne de réconciliation pour toute la création. Écoutez, proclame Jérémie, Écoutez la parole de création. Oh, il ne s'agit pas d'un son perceptible par les oreilles, mais plutôt d'un élan intérieur qui se lève et qui déplie le désir d'être vivant dans l'harmonie, dans la bonté. Et il est possible alors de ne pas être soumis au déterminisme de la nature ou à celui des cultures, mais il est possible de porter sur soi et autour de soi un regard faisant place à l'altérité et aux relations de reconnaissance. Il est possible d'écouter, de ressentir, d'être attentif à la vibration intérieure de la bonté, au frémissement de l'âme, à la palpitation d'un cœur de chair et compatissant, et d'œuvrer alors pour un monde plus habitable, même à partir d'un monde abîmé et souffrant. Cela est possible, et ce possible, ce peut-être, est porté par le nom de Dieu. Alors oui, oui, que ta volonté advienne, où se crée un monde en état d'accueillir l'humanité, y compris les plus petits, les plus pauvres qui en font partie. Il n'y a pas d'humanité sans les plus petits, les plus pauvres, les plus faibles, les plus démunis. Jésus de Nazareth n'a cessé de le dire, de le proclamer et d'agir selon cette conviction. Or, le prophète Jérémie le voit. L'harmonie de la création est bouleversée, perturbée, comme si la mer franchissait la limite du sable, comme si les pluies ne tombaient plus au bon moment, comme si le cycle des saisons ne tournait plus. Mais ce qui est en cause, ce qui est cause du bouleversement et du malheur, c'est le dépassement de la limite par les humains. Ce sont eux qui dépassent les bornes à l'intérieur desquelles l'harmonie peut se déployer, à l'intérieur desquelles l'humain devient véritablement humain. Ce que le prophète décrit, c'est une véritable déshumanisation. Quand l'humain pense que les limites le contraignent, au lieu de croire qu'elles tracent l'espace de l'existence bonne et bénie. Il est des méchants qui tentent de défiler pour prendre des hommes comme des proies. Leurs maisons sont remplies de tromperies, c'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Jérémie voit comment, en cherchant à assurer sa vie par soi-même, à se rassurer par la réussite personnelle, la réussite économique, par l'accumulation de biens matériels, l'humain ne reconnaît plus de place pour autrui. Et sa relation avec l'autre n'est plus tissée de reconnaissance et de bénédiction. Ce n'est pas qu'il n'y ait plus de récolte, c'est surtout qu'elles ne sont plus partagées. Ils deviennent gras et resplendissants, tandis que d'autres manquent des moyens de vivre. Qu'est-ce que le pain pour ceux qui n'en ont pas ou pas assez? Qu'est-ce que le pain pour ceux qui l'entassent? Oh oui. Oui, donne-nous notre pain pour ce jour. Notre pain. Donne-nous de regarder le pain comme notre pain, qui est véritable pain d'être partagé entre nous, entre tous. Mais quand la domination à laquelle est appelé l'humain n'est plus comprise comme soin à apporter à la création et aux créatures, mais qu'elle est pervertie en exercice de pouvoir et de puissance, le droit et la justice sont négligés. Car droit et justice sont les moyens par lesquels est mise en œuvre la reconnaissance d'autrui comme humain béni par le Dieu créateur. Droit et justice sont les expressions, des expressions, de la limite posée à chaque humain afin qu'il ne prenne pas toute la place. Mais, dit Jérémie, ils ne rendent pas la justice, ils ne respectent pas le droit des pauvres. Le droit d'être considéré avec dignité, quel que soit l'état dans lequel on se trouve. Le droit de ne pas être exploité comme un objet. Le droit de ne pas étouffer sous les dettes et les comptes à rendre, ne serait-ce que celui d'être là, sur terre. Ah oui. Ah oui, remets-nous nos dettes, comme nous l'avons fait pour nos débiteurs, pour qu'ils retrouvent une place un espace, une respiration, une voix. Jérémie le discerne bien. La convoitise du pouvoir et de la puissance engendre la violence, celle des riches sur les pauvres, mais également celle des humains sur les animaux, celle des bien portants sur les malades, celle des hommes sur les femmes, celle des purs sur les impurs. Car le pouvoir, la puissance, la violence peuvent aussi être exercés par les religions, et le christianisme n'y échappe pas, les chrétiens non plus. C'est pourquoi la prière donnée par Jésus insiste « Ne nous fais pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mauvais, de la fascination de la puissance, comme de la fascination du malheur. Délivre-nous de la fatalité qui fait croire qu'il n'y a pas d'autre possibilité de vie que de vivre en soumission à une puissance ou en exercice d'un pouvoir. Délivre-nous de la fatalité, la pire, de croire qu'il n'y a pas d'autre avenir que ce qui est dans le monde. Mais qu'il soit possible d'entendre la parole de bonté et de bénédiction, de ressentir ce souffle de bonté qui appelle inlassablement à devenir bon pour la vie des vivants, et particulièrement pour la vie des plus fragiles. Que ferez-vous pour l'avenir ? Demande Jérémie. Eh bien, peut-être écouter l'appel, cette brise légère qui souffle du fond des temps, du fond des textes de la Bible, du fond de l'âme, qui souffle, oui, qui souffle, c'est bon, et qui insiste. Et puis peut-être répondre à l'appel. Aimer ce monde béni sans cesser de chercher à le transformer vers plus de justice et de bonté. Répondre à l'appel, puisqu'il s'agit de répondre et non de prouver. Devenir responsable, porteur d'une réponse au bon posé sur la diversité, au oui posé sur chacun des humains qui sont là. Car il n'y a qu'un appel, un appel fragile à devenir humain sur la terre et avec les autres, un appel fragile mais inconditionnel à la bonté et à la justice, un appel qui est Dieu, Dieu comme, non comme un pouvoir souverain, mais comme possibilité toujours ouverte de la justice et de la bénédiction, Dieu non comme cause, mais comme souffle qui appelle, convoque, provoque, invite, incite n'importe qui, dans n'importe quelle situation. Que ferez-vous pour l'avenir ? Croire. Croire que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Croire que le retour en arrière n'est qu'une funeste illusion et que ce n'est pas dans le passé que se trouvent les réponses. Croire aussi qu'il est toujours possible d'inventer, même de bricoler sans prétention, avec les moyens du bord. Qu'il est possible de créer à partir de ce qui est là, même quand ce qui est là ressemble à un vaste tohu-bohu. Croire que nous sommes capables de répondre, capables d'habiter de manière responsable les limites de la condition humaine et le monde à venir. Amen.